RFI 6h à Paris, 4h en temps universel, minuit à Washington. Et un nouveau journal consacré à l'actualité internationale avec vous, Jeanne Bartoli, bonjour. Et
bonjour Grégoire, bonjour à tous. Dans ce journal, voilà 100 jours qu'il bouleverse les équilibres mondiaux, qu'il gouverne par décret, qu'il expulse des migrants, met au chômage des fonctionnaires par milliers. Donald Trump continue d'appliquer son programme, mais il ne convainc pas tous les Américains, loin de là. On verra notamment que les élus républicains sont chahutés dernièrement lors de leur déplacement. Toute la journée, RFI va revenir sur ce début de présidence Trump, ses conséquences. Édition spéciale, notamment tout à l'heure entre 6h et 8h, temps universel. Dans ce journal aussi, empêcher les naissances. La guerre à Gaza est aussi une guerre démographique. Voilà la conclusion de plusieurs ONG palestiniennes et d'un groupe d'experts de l'ONU. Ils ont rendu leur rapport hier à Ramallah. Nous serons aussi au Sénégal où les médias sont vent debout contre la décision du ministère de la Communication de suspendre avec effet immédiat tous les médias qui ont échoué à se mettre en conformité avec un certain nombre d'obligations administratives. Et puis le Paris Saint-Germain prend l'avantage à Arsenal. 1-0 en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira a suivi la soirée à Londres. Il a signé en janvier dernier un retour fracassant à la Maison-Blanche. Après 4 ans de présidence Biden, Donald Trump a été plébiscité par les Américains avec les coups des franches au Sénat comme à la Chambre des représentants et un programme anti-migrants, de guerre commerciale et de réduction massive des coûts de l'administration fédérale américaine. 100 jours après sa prise de fonction, Donald Trump a signé pas moins de 140 décrets. Beaucoup ont été bloqués par la justice, mais d'autres ont bien été suivis des faits. Des milliers de fonctionnaires mis à la porte, à l'image de l'agence USAID démantelée ces derniers mois. Reportage Guillaume Dodin.
On était foudroyés, franchement.
C'était le 28 janvier, une semaine après le début de la nouvelle administration. Jacqueline Devine est chez elle. Elle reçoit un courriel de son employeur qui dépend de l'USAID, l'agence américaine de développement international. Elle se retrouve sans salaire, sans préavis, mais à 65 ans, elle considère qu'elle a de la chance par rapport à ses anciens collègues.
Heureusement que j'avais fini de payer mon hypothèque pleinement en janvier, quelques jours avant la mise au pied. Alors, c'est vraiment une chance. Je sais que les gens souffrent de dépression. Ils n'ont pas beaucoup d'espoir parce que, et des fois, il y avait des couples où est-ce que les deux dépendaient entièrement de ces jobs-là et que les deux sont sans emploi.
Il a donc bien fallu s'adapter et chercher des moyens de subsistance.
Très rapidement, je me suis mis à écrire à différentes universités, offrant un peu mes services. Alors, j'ai pu avoir un poste de professeur, ce qu'on appelle adjunct. Ça paye peut-être 1/20 de ce que je gagnais avant. Donc, je vis assez modestement.
Et notamment sans couverture sociale, avec bien peu d'espoir de retrouver un travail dans le secteur de l'aide internationale qui a de fait pratiquement disparu aux États-Unis avec la suppression de 90% des programmes de l'USAID. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et la politique de Donald Trump et de son administration qui déroute certains Américains, notamment pour ce qui est des droits de douane. Plusieurs sondages donnent une cote de popularité du président en baisse avec une majorité d'Américains qui désapprouvent la manière dont Donald Trump exerce la présidence. Après une période de sidération, l'opposition et les mécontents commencent à s'organiser, à tel point d'ailleurs que les élus républicains rechignent parfois à rencontrer leurs administrés et ceux qui s'y risquent sont chahutés, même au cœur du très conservateur État du Texas. Reportage de notre envoyé spécial Nathanaël Vitran.
Nous voici à Conroe, à 1 heure de route au nord de Houston. Dans ce comté, en novembre dernier, on a voté Donald Trump à plus de 70%. Le sénateur s'appelle Ted Cruz et le député local Morgan Luttrell a même recueilli ici plus de 80% des suffrages. Ce mercredi soir d'avril, il n'arrive pourtant pas en terrain conquis.
Ted Cruz dit que les tarifs douaniers sont un impôt sur le consommateur américain. Donald Trump dit le contraire. Alors, lequel est un menteur ?
Embarrassé, l'élu républicain tente une pirouette.
Les tarifs sont à la fois bons et mauvais, mais je comprends que ça fasse mal. Je peux vous assurer que ça me fait mal d'être ici, parce que je suis comme vous. Je ne suis pas différent de vous.
La salle est comble à tel point que certains sont restés dehors, comme Dwight Ford, noir américain, casquette de l'US Air Force vissée sur la tête. Cet ancien du Vietnam n'est pas content du tout.
C'est le pire président qu'on ait jamais eu. Les marchés se sont effondrés, les gens se haïssent, les vétérans souffrent. Nous avons élu un président, pas un roi.
Il avait donc beaucoup de questions pour son représentant.
Je suis venu lui demander s'il était là pour représenter ses administrés ou pour s'agenouiller devant le président et lui baiser l'anneau. Oh, il s'en va. Ils l'ont chassé ou quoi? Il a l'air fâché.
Effectivement, après moins d'une heure, l'élu républicain, l'air contrarié, s'engouffre dans sa voiture et s'éclipse. Nathanaël Vitran, Conroe, RFI.
Donald Trump qui continue par ailleurs de rectifier le tir concernant les conséquences des droits de douane qu'il a imposés à toute la planète. Hier, il a allégé par décret les taxes pour les constructeurs automobiles fabriquant aux États-Unis avec des pièces importées. Objectif, leur éviter un cumul de taxes en vigueur depuis début avril. Donald Trump qui était par ailleurs à Warren, dans le Michigan, hier à la veille, aujourd'hui des 100 jours donc de sa présidence. Nous ne faisons que commencer, a déclaré le président américain. Il a défendu son offensive protectionniste, promesse selon lui d'un nouvel âge d'or économique ainsi que ses opérations d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière. Ces 100 jours de présidence, on y revient sur RFI, édition spéciale tout à l'heure entre 8h et 10h, heure de Paris, 6h et 8h, temps universel. Au Proche-Orient, la journée d'hier marquée par ce nouvel appel du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve de courage politique pour sauver la solution à deux États, un État israélien et la création d'un État palestinien. Il s'exprimait devant le Conseil de sécurité, évoquant les opérations militaires israéliennes à Gaza, où la situation est passée, selon lui, de mauvaise à pire, à inimaginable, a dit Antonio Guterres. Les autorités israéliennes qui ne cachent pas leur souhait de réduire la présence palestinienne à Gaza. Cela passe par le projet d'expulser des habitants de l'enclave, mais aussi par le fait d'empêcher les Palestiniens de faire des enfants. C'est la conclusion d'ONG palestiniennes, mais aussi d'un groupe d'experts de l'ONU. Ils ont rendu publique leur conclusion hier à Ramallah. Amira Souilem était sur place.
Empêcher les naissances. La guerre à Gaza est aussi une guerre démographique, soutient Khadija Ebrahim de l'ONG palestinienne Mefter.
Il ne s'agit pas seulement de tuer directement la population, mais aussi de l'empêcher de pouvoir donner le jour à des générations futures. Pour y arriver, la grossesse est rendue dangereuse et le secteur de la santé, nécessaire à la survie de la mère comme de l'enfant, est démantelé.
À Gaza, des maternités ont été bombardées ainsi que la plus grande clinique permettant des fécondations in vitro. Au moins 4000 embryons ont été détruits. Autant d'éléments qui font dire à Chris Sidoti, avocat et expert auprès de l'ONU, qu'il y a bien une guerre contre la fertilité palestinienne.
Nous n'avons aucun doute sur le caractère délibéré de ces attaques et sur le fait qu'elles visaient à affecter la capacité de la population palestinienne à se reproduire. Il est clair qu'il y a eu des actes de génocide à Gaza.
Au-delà de la fertilité, cet expert de l'ONU s'inquiète aussi de ce qu'il appelle la sexualisation de la torture à Gaza.
Il y a eu une augmentation du harcèlement sexuel, des menaces de viol, il y a des cas d'humiliation sexuelle comme des tentatives de baiser ou encore l'obligation de se dénuder et d'être pris en photo nu parfois, ou bien de marcher ou de danser nu.
Israël a de son côté dénoncé un rapport mensonger et antisémite. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
Des frappes britanniques conjointes avec l'armée américaine. Elles ont ciblé une unité de production de drones des rebelles houthis au Yémen. C'est ce qu'on apprend hier soir à environ 25 kilomètres au sud de la capitale Sanaa. Le Pakistan assure ce matin disposer de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde prévoirait une frappe militaire imminente suite au récent attentat au Cachemire. Attentat qui a conduit à une escalade diplomatique entre les deux pays. Islamabad a nié toute implication dans cet attentat. Hier, le premier ministre indien Narendra Modi a donné son feu vert à l'armée pour mener des opérations de représailles. C'était lors d'une réunion devant les chefs d'état-major. Le Pakistan appelle de son côté l'ONU à faire pression sur l'Inde pour éviter l'escalade. À l'écoute des RFI, 6 heures passées de 9 minutes, les médias sénégalais vont debout contre la décision du ministère de la Communication de suspendre, avec effet immédiat, Tous les médias qui ont échoué à se mettre en conformité avec un certain nombre d'obligations administratives. La liste définitive de ces médias n'a pas encore été rendue publique, mais sur les 650 et quelques médias que compte le pays, plus de 350 sont potentiellement concernés par cet arrêt de leur activité. À Dakar, Léalisa Westerhoff.
Depuis la publication vendredi dernier de cette décision de suspendre les médias jugés non conformes au code de la presse, la confusion et l'inquiétude règnent parmi les entreprises de presse. Jusqu'à février, un processus d'enregistrement des médias était en cours. Fatou Kama, rédactrice en chef de la chaîne Diaspora News TV, assure avoir fourni tous les documents demandés, mais sans nouvelles des autorités, elle et les 10 employés de sa chaîne pensent figurer parmi les médias désormais interdits de travailler. Une atteinte à la liberté de la presse, selon Fatou Kama.
L'État, qui était censé protéger la liberté de la presse, est en train de mettre le bâton dans les roues. Actuellement, nous ne sommes pas en train de travailler depuis presque une semaine. Et vraiment, c'est une entrave grave à la démocratie sénégalaise et qui est reconnue à travers le monde entier.
Sur les 650 et quelques médias au Sénégal, seuls 258 ont pour l'heure été déclarés conformes aux exigences administratives des nouvelles autorités. Pour le président du patronat de la presse sénégalaise, Mamadou Ibrakane, avec cette décision de suspendre certains médias, le ministère de la Communication outrepasse ses prérogatives.
Ils veulent domestiquer la presse, c'est-à-dire qu'ils veulent eux-mêmes dire qui a le droit d'être un média au Sénégal ou non. Cela, c'est vraiment inconcevable, c'est arbitraire et c'est ce contre quoi nous luttons actuellement.
Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a donc prévu de déposer un recours en annulation devant la Cour suprême. De son côté, le ministère de la Communication assure qu'un certain nombre de dossiers est encore en cours de traitement et promet une rencontre avec les entreprises de presse ce vendredi. Léalisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Au Mali, la fin hier soir des discussions sur l'avenir des partis politiques, discussions boycottées par la plupart des formations du pays. Les délégués présents ont publié des recommandations, parmi elles la dissolution des partis politiques maliens et l'installation du général Assimi Goïta à la présidence de la République pour les 5 ans à venir, sans élection donc. Cela fait plusieurs semaines que de nombreuses voix de la scène politique malienne dénoncent une mise en scène destinée à mettre un terme au multipartisme. En football, belle performance pour le Paris Saint-Germain hier à Londres, le club parisien qui s'est imposé 1-0 lors de sa demi-finale allée de la Ligue des Champions face à Arsenal. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur RFI, un succès logique à l'Emirates Stadium qui lui permet de prendre une option sur la qualification pour la finale à quelques jours du match retour au Parc des Princes. Cédric De Oliveira.
Il faut croire que le PSG est un antidote au football anglais. Après Liverpool, après Aston Villa, c'est donc Arsenal qui a mordu la poussière devant son public. Le défenseur Nuno Mendes a conscience d'avoir fait quelque chose de déterminant.
Oui, c'est un grand pas. On part avec un but en avance. C'est bon pour nous, ça nous donne de confiance. Il faut continuer.
Des Parisiens qui ont été conquérants à l'Emirates Stadium, marquant au bout de 3 minutes seulement grâce à Ousmane Dembélé. Avant de contenir les assauts des Gunners, l'entraîneur Luis Enrique attend désormais une confirmation.
Le premier objectif a été rempli. Maintenant, il ne faut pas calculer quand on va recevoir Arsenal qui peut marquer à tout moment. Je crois qu'on va avoir droit à une deuxième rencontre passionnante pour les spectateurs et stressante pour les entraîneurs.
Déjà tourné vers ce match retour au Parc des Princes, les joueurs n'ont pas célébré outre mesure dans le vestiaire. Martelant le même message, ils n'ont fait qu'une partie du chemin.
Toutes les victoires en Champions League sont difficiles. Je pense que le plus difficile, c'est garder cet avantage. On doit gagner aussi l'autre match pour arriver à la finale et c'est ça qu'on va faire.
Une détermination aussi palpable que sur le terrain londonien. Si le PSG maintient ce niveau de performance et la même attitude, il ne sera pas loin de se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des Champions. Cédric De Oliveira, Londres, RFI.
Et l'autre demi-finale aller, ce sera ce soir. FC Barcelone, Inter Milan, coup d'envoi 19h, temps universel.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
À 6h14 à l'écoute de la Radio du Monde, 100 jours de coups d'éclat qui ont tétanisé les alliés de l'Amérique. On revient sur la diplomatie Trump en ce moment, un mélange de formule shop, d'invectives, de course aux résultats qui déroute ses interlocuteurs de l'Ukraine au Proche-Orient, qui interroge aussi sur la fiabilité du partenariat avec les États-Unis. Voilà donc 100 jours que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Le président américain résume d'une seule phrase: « Moi, je ne veux veux faire plaisir à personne. Ce que je veux, c'est un deal, un accord qui serve les intérêts des États-Unis. Retour sur les 100 premiers jours de sa politique étrangère avec Vincent Souriau.
Si l'art du deal, c'est de tordre la main, de jouer le plus fort contre le plus faible, alors oui, la diplomatie de Donald Trump y ressemble beaucoup. Stupéfiante, l'humiliation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale et la main tendue à Vladimir Poutine, encore pestiféré en Occident quelques semaines plus tôt. Déroutantes les pressions sur le Panama ou sur le Groenland au nom du commerce ou de la sécurité nationale, le président américain se fiche des usages ou des convenances. Allié de l'Amérique, en dehors d'Israël, que la Maison-Blanche soutient coûte que coûte, ce mot ne vaut plus grand-chose. Sous la présidence Trump, à la conférence de Munich, le vice-président J.D. Vance est venu dire tout le mal qu'il pensait de l'Europe. Quant aux droits de douane, ils ont touché en premier lieu les trois plus importants partenaires commerciaux des États-Unis, Chine, Mexique et Canada. Des deals, j'en ai toujours plusieurs sur le feu parce qu'en général, ça ne marche pas. C'est ce que Donald Trump écrivait en 1987 dans son livre fétiche. Aujourd'hui, il bouleverse l'ordre international. On ne sait pas encore pour quel résultat.
Vincent Souriau, l'Europe loin d'être épargnée par Donald Trump. Résultat, un électrochoc ces trois derniers mois. Certains diront salutaire. L'Union européenne est au pied du mur et contrainte face à Donald Trump de prendre ses responsabilités et de se réinventer. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Vous êtes à Bruxelles pour l'appel correspondant. Donald Trump a renversé en 100 jours le lien transatlantique en commençant par l'Ukraine où il prend le contre-pied littéralement des Européens qui se sentent désormais exposés, Pierre, à un risque de guerre.
Oui, pour la première fois depuis 45, les Européens sont confrontés à une guerre à grande échelle sur le continent. Malgré les 140 000 morts qu'elles ont causées, les guerres d'éclatement de la Yougoslavie sont finalement restées un conflit régional. Avec l'Ukraine, c'est la première fois que l'Union Européenne voit le risque d'une extension d'un conflit qui pourrait affecter en premier lieu Baltes et Polonais. Et la défense commune était très loin de l'ADN européen puisque le premier projet, la communauté européenne de défense, avait été tué dans l'œuf en 1954 par les députés français.
Mais désormais, les Européens n'ont plus le choix, ils doivent s'armer, se préparer. Est-ce que c'est la première leçon du retour au pouvoir de Donald Trump ?
C'est une leçon tirée d'abord de l'invasion russe en Ukraine, mais jamais les Européens n'auraient pensé devoir un jour soutenir l'Ukraine à eux seuls. Ils en sont désormais à devoir l'imaginer. Le résultat du retour de Donald Trump, en tout cas, c'est la concrétisation de l'Europe de la défense, côté UE, et la montée en flèche des budgets de défense des alliés européens au sein de l'OTAN. Alors que sous le premier mandat de Donald Trump, il lui avait promis du bout des lèvres de tenir leur engagement de dépenser 2% de leur produit intérieur brut pour la défense, ils ont désormais accéléré la cadence et les États-Unis se sont même fait dépasser par la Pologne en termes de dépenses militaires. Ils sont d'ailleurs, les Européens, servis par le manque de résultats de la diplomatie américaine, ce qui les a même conduits à mettre sur la table une contre-proposition de plan de paix.
Alors la vraie offensive de Donald Trump, c'est la guerre commerciale et les Européens, Pierre, ne sont finalement pas si démunis.
Ils savent pertinemment que Donald Trump déteste l'Union européenne, conçue selon lui pour arnaquer les États-Unis. Ils avaient préparé de quoi se défendre, en partie avec des instruments nouveaux, les mesures anti-coercition, une arme économique de destruction massive, conçue à l'occasion du conflit entre la Lituanie et la Chine, mais que les Européens brandissent désormais face à la Maison-Blanche. Et puis, il y a les outils traditionnels, les mesures de rétorsion, comme Donald Trump a suspendu pour 90 jours ses droits de douane dits réciproques, l'UE a fait de même. Résultat, le président américain estime que les Européens sont dans la négociation et il se dit satisfait. Mais pour l'instant, c'est le flottement. Et si l'immobilisme a permis aux Européens de garder leur unité, personne ne s'aventure à prédire ce que donnerait une reprise de la guerre commerciale, mis à part le fait que des contre-mesures européennes auraient vocation à s'appliquer dans la durée.
Enfin, Pierre, Donald Trump a mis à bas une grande partie de l'architecture de défense multilatérale, de cet ordre mondial construit après la Seconde Guerre mondiale. Les Européens cherchent encore comment se réinventer.
C'est devenu en quelque sorte une obligation parce que Donald Trump n'a toujours pas daigné accorder une entrevue à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et qu'il menace de prendre par la force le Groenland, pourtant territoire danois. Il leur faut donc se diversifier. Il multiplie les accords commerciaux, récemment avec le Mexique, les prochains en vue avec la Corée du Sud ou le Japon. Il relance les approches avec la Chine, certains estimant même qu'il faut profiter de son affaiblissement suite à la guerre commerciale avec les États-Unis. Ils viennent de gagner un partenaire pro-Europe au Canada, en la personne du nouveau Premier ministre Mark Carney. Et le retour de Donald Trump a même accéléré un rapprochement politique majeur avec le Royaume-Uni, 5 ans après le Brexit.
Pierre Benazet à Bruxelles, c'était l'appel correspondant sur RFI. Et eux sont probablement les principales cibles de Donald Trump. Le président américain entretient un discours très dur envers l'immigration, notamment latino-américaine. Le discours agressif de Donald Trump et de son administration entre stigmatisation et racisme qui n'est pas sans impact de l'autre côté de la frontière. Reportage à Mexico, Gwendolina Duval.
Pour José de León, un Mexicain originaire de Monterrey au nord, c'est une évidence. Depuis que Donald Trump est président, les États-Unis soufflent un vent de haine vers le sud.
Tout est contre nous, pas seulement les Mexicains, mais tous les Latino-Américains.
Le discours anti-immigration de l'administration américaine fait volontiers l'amalgame entre Latinos, migrants et criminels. Pour Elisa Vargas, c'est une erreur de laisser croire que tous cherchent à traverser la frontière, et quand bien même, les prises de parole de Donald Trump l'affectent et l'inquiètent.
Il est agressif dans sa manière d'exprimer. Ça ne me plaît pas du tout. Étant moi-même d'une famille migrante, on dirait qu'il parle sans réfléchir, qu'il ouvre la bouche pour être agressif ou être cruel. Tout ce discours se répercute à l'échelle globale.
Un discours de plus en plus médiatisé. Pour Baruch Racine, porte-parole d'ODA, une ONG qui accompagne des personnes expulsées des États-Unis, une peur latente existe depuis des décennies parmi les familles mexicaines. La violence des politiques américaines n'est pas nouvelle.
Il existe un racisme systémique qui continue de se former et qui est un élément essentiel du discours pour continuer à commettre et à justifier des crimes humanitaires.
Tous au Mexique se sentent concernés de près ou de loin par l'immigration. Près de 40 millions de ressortissants vivent et travaillent aux États-Unis. Environ 11 millions n'ont pas de papiers. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Les 100 jours de Donald Trump. RFI sera en édition spéciale ce matin entre 8h et 10h, heure de Paris, 6h et 8h, temps universel. Place à la culture, transformer les plastiques en instruments et les déchets en musique afro-futuriste. C'est le credo de Fulu Miziki depuis 2014. Ce collectif de Kinshasa, né des rues et des poubelles de la capitale congolaise, se fait le porte-voix de la crise climatique actuelle. Tout en secouant les dance floors, le collectif entame une tournée de 34 concerts en Europe. Le chanteur déboulé Bokungako est au micro de José Marinho.
Duboul Bokungako, bonjour.
Bonjour José.
Fulu Miziki se définit comme un collectif éco-friendly, afro-futuriste punk. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous, on définit ça comme des gens qui ont eu l'idée de rechercher dans des poubelles pour préserver la terre par la destruction des déchets. Nous, on a eu l'idée de rassembler ces déchets et de faire des instruments à notre manière pour jouer de la musique. Si on a fait ça, c'est parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui négligent notre planète. Et là, ça nous tue. Il y a des dérèglements de partout dans la nature.
D'après les rumeurs, vous-même, vous faites les poubelles à Kinshasa pour créer vos instruments, c'est vrai?
Non, nous, on ne fait pas les poubelles. Nous, on cherche dans des poubelles que les gens ont déjà fait quand on était des gamins. On crée des instruments, la musique avec des marmites, des choses récupérées d'un peu de partout. Même les costumes, comme maintenant, là, en 2025, on a des costumes avec des déchets, des plaquettes électroniques.
Duboul Bokungako, C'est une formation qui n'est pas du tout classique et vous avez créé le Twerkanda. Comment décrirez-vous ce genre musical ?
Il y a la musique de chez nous, du Congo, la rumba, il y a la musique de l'Amérique, il y a la musique aussi de l'Europe. On a fait un mixage un peu de tout ça.
Et vos chansons, de quoi parlent-elles concrètement ?
On encourage les jeunes et les gens de faire de leur mieux pour survivre parce que tu vois, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. L'homme doit manger à la sueur de son front, c'est ce que nous on a fait. Il y a des chansons qui encouragent les gens à recycler les déchets qu'on jette. On a une chanson qu'on chante. Bopeto, bopeto, tolongo la salité. Bopeto, bopeto, tolongo la salité. Bopeto, bopeto. C'est ça, on dit la propreté, il faut enlever les saletés. Si vous n'enlevez pas les saletés, il y aura la pollution, il y aura des maladies, il y aura plein de choses qu'on même on connaît pas.
De Bulbo Kungako, est-ce que le message sur la préservation de la planète est bien entendu par votre public, notamment en RDC, ou est-ce encore une bataille qui continue ?
C'est une bataille qui continue, on continue, on a l'espoir, c'est notre combat vraiment, c'est ça. On s'occupe plus de la nature, c'est ça qui nous a causé du tort sur la Terre. C'est à cause de ces déchets-là qui nous fait défaut de vivre paisiblement dans notre planète.
Pour terminer, de Bulbo Kungako, avec votre message radical sur la protection de la nature, avez-vous rencontré des résistances dans votre tournée européenne en ce moment ?
Non, on n'a pas trouvé quelqu'un qui s'oppose à notre idée. Il y a des gens qui nous encouragent de transmettre aussi aux enfants, comme souvent on fait ça. On crée des instruments avec eux, aussi la musique. Parce que l'avenir de demain, c'est ces enfants-là qui sont encore jeunes. Il faut qu'ils apprennent de recycler des déchets.
De Bulbo Kungako, merci.
Merci à vous, José.
Un entretien signé José Marigno et le collectif Foulou Muziki qui sera en concert au Festival The Echo à Marseille. Ce sera le 22 mai prochain. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Priorité santé, comme tous les jours, avec Caroline Paré, 9h10 temps universel. Émission spéciale aujourd'hui pour les 100 jours de la présidence Trump.
Aujourd'hui dans Priorité santé, 100 jours de présidence Trump avec nos invités épidémiologistes, spécialistes des infections, chercheurs. Nous allons parler des conséquences pour la santé des Américains comme pour la santé mondiale de cette politique de rupture. Licenciement massif, démantèlement d'agences stratégiques pour l'aide et la prévention, dénigrement de la science. Parmi nos invités, Victor Rodwin, c'est un spécialiste des politiques de santé aux États-Unis. Il enseigne à la Wagner School of Public Service de l'Université de New York. Après 100 jours sous Trump, quel changement pour la santé des Américains ?
Eh bien, les effets ne sont pas encore entièrement ressentis, mais ça va. Sur le plan du discours, on sait très bien ce qui va se passer. Mais la plupart des Américains ne réalisent pas encore parce que ça ne les est pas encore touchés. Mais ça va venir d'ici, je dirais, 3 mois, 6 mois, ça va s'empirer. Si vraiment toutes ces coupures annoncées sont effectuées. Et déjà, il y a une réduction de la force de travail et une coupure des budgets. Un tiers du budget du ministère de la Santé, du HHS, a été coupé. 44% du budget du CDC a été coupé de 9,2 à 5,2 milliards de dollars.
Trump menace pour la santé mondiale, conséquences pour le financement, la prévention des infections. Quel impact pour la vaccination à l'échelle mondiale et pour les partenariats internationaux de recherche médicale. Le regard aussi du président de l'INSERM, le professeur Didier Samuel, de l'épidémiologiste Antoine Flahaut. C'est à retrouver dans Priorité Santé, 9h10, 1h10, temps universel. Et bien sûr en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et à tout à l'heure, c'était Caroline Paré. Vous restez avec nous sur la Radio du Monde. Le journal à suivre, mais avant un peu de musique, c'est Tiwoni avec le titre Énergie sur RFI.
Tu serves les signes et les merveilles. Cette petite voix qui parle dans ton sommeil. Ce soleil qui t'illumine au réveil. Le chant des oiseaux dans le ciel. Cette couleur de l'arc-en-ciel qui nous rappelle notre éternel, avec le Dieu de la terre, le Dieu du ciel. Il est le fournisseur officiel. Energy. Allez, venons ensemble partager la bonne énergie. Pour ton corps et pour ton mental. Energy. Pour ton bien-être, c'est vital. Energy. Mon vase déborde, la coupe est pleine. Peu importe ta couleur, peu importe ta classe. Energy. Pour fortifier et rassembler les masses. Energy. Il n'y a pas de cure plus efficace. Energy. Distribution gratuite pour la populace. C'est venu cette énergie, cette force qui nous accompagne et nous régit. Ensemble créons cette synergie. Impossible de rester en léthargie. Babylone nous donne des allergies. Mais on reste focus et on agit. On réagit, on s'agit. Toujours en vie.
Tiwani avec énergie sur RFI. Bon réveil à tous à l'écoute de la Radio du Monde. Le journal à suivre dans 30 secondes.
Ce mercredi, sur RFI,
c'est pas du vent, Igor Strauss.
La stratégie du chaos, 100 jours de Trump. À l'occasion de notre journée spéciale, le club de C'est pas du vent vous propose de revenir sur certaines mesures prises par le président climato-sceptique. Sortie de l'accord de Paris sur le climat ou fin de l'usage des pailles en papier. La liste est encore longue, mais je m'arrête là. La suite sera dans le club de C'est pas du vent.
C'est pas du vent, avec Igor Strauss.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 TU.
RFI.